Bonjour et bienvenue à Portrait Vivant, l'émission radio qui esquisse un tableau en mouvement de la communauté artistique de l'École d'art de Sutton. Ensemble, allons à la rencontre des artistes, des jeunes créateurs et des œuvres qui façonnent cette institution incontournable du paysage culturel de l'Estrie. Je m'appelle Ayona, artiste en art visuel. Mon parcours m'a menée aux quatre coins du monde, guidée par une quête d'apprentissage et de rencontres. J'ai fini par m'installer ici, en Estrie, où je découvre une véritable boîte au trésor de personnes engagées, passionnées par leur travail, avec des valeurs d'entraide et de coopération. Dans cette émission, on va découvrir les printemps de l'architecture 2025, particulièrement le travail de l'organisme L'Ensemble, un organisme à but non lucratif situé à Montréal et Abercorn. Ils ont proposé 9 propositions architecturales pour permettre à la ville de Sutton de se densifier tout en préservant son caractère authentique. Et on va aussi découvrir le documentaire Le Dernier Flip, un documentaire sur l'immobilier qui est vraiment intéressant et qui parle de solutions de logement abordables. Donc, restez à l'écoute, ça va être un épisode sur des questions très pertinentes, en fait, qui nous affectent tous en Estrie.
Pense à toi. La.
C'était Les Petites Choses par les éphémérides, qu'on connaît aussi sous leur autre nom, Barefoot on Grass. Aujourd'hui, on parle de l'architecture et surtout du logement abordable. On a maintenant avec nous Alexandre Landry, architecte chez L'Ensemble, un organisme à but non lucratif, qui va nous parler de son exposition et de ses projets. Il a conçu en fait avec toute son équipe, qui ont été présentés au printemps de l'architecture. On écoute.
Mon nom, c'est Alexandre Landry. Je suis architecte et je suis le directeur et fondateur de L'Ensemble. L'Ensemble, c'est un organisme à but non lucratif, une firme d'architecture à but non lucratif. Puis on travaille principalement sur les questions de création de logements à but non lucratif. Et on travaille aussi beaucoup sur la réflexion sur comment densifier les villes de façon plus sensible.
Merci, bienvenue sur notre émission. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre exposition qui se passe à l'École d'art de Satin?
Oui, absolument. C'est un projet sur lequel on a travaillé très fort depuis maintenant 2 ans. Le nom de l'exposition s'appelle « Comment créer du logement sans dénaturer un village ». J'utilise le mot « exposition », mais c'est davantage une activité de concertation. Parce que l'objectif de ce qu'on a monté à l'École d'art, c'est de pouvoir montrer notre travail aux gens, puis d'aller chercher leur feedback par rapport à notre travail. C'est un travail qui se fait à 2 échelles, dans le sens que on travaille le projet à Sutton, mais on a une démarche qui se veut à la grandeur de la province. Donc, on étudie un village, comment ajouter des logements dans un village en conservant son identité, mais on le fait de façon à ce qu'on pense aussi aux autres villages. Donc, comment on pourrait prendre cette approche-là et la mettre en application dans d'autres endroits au Québec? Donc, c'est comme un cas d'étude, dans le fond, Sutton, pour nous autres, pour réfléchir à une démarche plus vaste.
Donc, vous avez 9 propositions qui sont présentées au public. Et je pense qu'il y a une partie aussi de discussion, de dialogue avec le public. Est-ce que c'est surtout des résidents de Sutton qui viennent voir l'expo?
Ben, c'est une bonne question. Du feedback que j'ai eu, il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Okay. Il y a des gens qui sont de la région, donc en dehors de Sutton, qui sont intéressés par cette démarche-là, parce qu'à la base, c'est une démarche qui est faite à la grandeur de la MRC, la MRC de Brome-Missisquoi. On a concentré notre travail sur Sutton à la 2e année, mais à la 1e année, c'est un travail qui se faisait dans plusieurs municipalités. Donc, il y a des gens qui viennent de la région, il y a des gens du coin ici, il y a des gens qui viennent d'ailleurs aussi, de d'autres MRC pour voir ce qui se passe ici, puis ce qu'on a fait. Donc, ça, les gens viennent d'un peu partout. Puis pour nous, c'est très important. D'une certaine manière, une des étapes les plus importantes de ce projet-là sur 2 ans, c'est de vraiment avoir une conversation autour de cette démarche-là qu'on propose et de voir si ça rencontre les besoins des résidents, des résidentes, si c'est une vision que les gens appuient, si c'est une vision qui, selon les gens, peut aider à conserver la vitalité dans les villages. Donc, c'est vraiment c'est une démarche très, très importante. On a réfléchi à différentes activités, différentes façons d'avoir un dialogue avec les gens. Par exemple, les gens qui viennent à l'exposition, ils peuvent évidemment faire le tour. Il y a quelqu'un de notre équipe qui est là à chaque fin de semaine pour parler aux gens, etc. Bien expliquer ce qu'on fait, bien avoir leur feedback, avoir une conversation avec eux. Puis ensuite, c'est possible de venir donner des commentaires, par exemple, sur si les gens se sentent plus interpellés par un projet ou un autre, ils sont capables de donner cette rétroaction-là. Et ça, c'est une façon qu'on le fait. Une autre façon qu'on le fait, c'est en fait, semaine prochaine, on organise une projection où on va projeter le film qui s'appelle « Le dernier flip » qui traite des questions plus foncières en lien au logement abordable, notamment par la mise en place de fiducie foncière communautaire. Donc, on présente ce film-là, puis encore une fois, on a une conversation avec les gens, un genre de questions-réponses où on peut vraiment aller en profondeur sur des sujets. Puis finalement, ben, la grande activité de concertation, c'est celle qui s'en vient dans 2 semaines, où les gens vont se rencontrer ici, puis on va vraiment avoir des discussions en profondeur sur différents sujets liés à l'exposition. Donc, c'est vraiment excitant tout ça.
Ouais, absolument. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ta démarche? En
fait? Oui, absolument. Ben, il y a une démarche, cette démarche-là, au sens large, cherche, comme je le disais plus tôt, à réfléchir comment créer du logement dans les villes, mais sans dénaturer les villes. Mmh. Tu sais, si on regarde ce qui s'est fait dans les dernières décennies, souvent, Le développement urbain se fait pas toujours de façon synchronisée avec ce que les gens veulent ou ce que les gens ont besoin ou avec le caractère des milieux de vie, l'identité des milieux de vie. Je donne un exemple. Des conjonctures où, disons, une tour s'est construite à côté de bâtiments de 2-3 étages, ben, c'est arrivé dans certaines villes, c'est arrivé dans... Puis il y a certains villages, même à l'échelle rurale, où les gens reconnaissent plus vraiment leur village à mesure que ça évolue, puis que les nouvelles personnes arrivent, puis tout ça. Puis nous, ce qu'on cherche, dans le fond, c'est de réfléchir à un développement qui est en harmonie avec le caractère puis l'ADN des villes, des villages. Donc, à Sutton, ben ça veut dire, premièrement, pour nous, identifier des sites qui se trouvent dans le noyau villageois qui pourraient être utilisés pour construire de l'habitat. C'est des sites qui souvent sont un peu insoupçonnés. C'est des sites qu'on voit pas vraiment, des emplacements où on pense pas a priori qu'il pourrait avoir de l'habitat, mais que nous, on dit « Ah, ben si on exploite ce type de site-là, dans les villages du Québec, ben on serait possible de créer de l'habitat dans les centres.
Ouais. »
Puis les centres des villes, des villages, c'est les endroits où ben il y a les infrastructures, c'est les endroits où les gens peuvent aller à pied à leur travail, c'est des endroits où la vitalité se trouve. Donc c'est vraiment une approche qui cherche à, dans le fond, construire un peu la ville ou les villages de l'intérieur, puis d'éviter qu'il y ait un étalement urbain qui se fait, qui est typique de la croissance des villes. Donc nous, c'est quelque chose qu'on cherche à contrer parce qu'évidemment, tu sais, dans une place comme Sutton, si on se met à construire en périphérie, ben on gruge sur les terres agricoles, etc. Donc c'est quelque chose qui est pas désirable certainement pour personne.
Est-ce que tu peux me donner un exemple d'un des projets en fait?
Oui, absolument. Ben à Sutton, par exemple, on a identifié 21 sites qui pourraient être intéressants pour ce type de développement-là. Puis, parmi ces 21 sites-là, on en a choisi 9. Les sites qu'on a choisis, ils ont toutes des caractéristiques différentes. À Sutton.
Oui.
À la base, on a identifié 21 sites qui avaient un potentiel, selon nous, d'être utilisés pour mettre de l'habitat. Puis on a raffiné notre étude selon des critères à 9 sites. Puis ces emplacements-là, ils sont de différentes natures. Par exemple, on a regardé comment sur un site religieux, on pouvait utiliser une partie du terrain pour créer de l'habitat pour les gens. On a aussi regardé, par exemple, un site qui appartient à la ville, où il y avait anciennement l'ancienne gare. Comment on pouvait utiliser ce site-là qui est vacant pour créer un bâtiment à la fois communautaire, mais avec une composante résidentielle. On a aussi regardé, disons, le site de l'épicerie, qui a priori est un site, on peut pas s'imaginer vraiment mettre de l'habitat sur un endroit, dans un endroit comme ça. Mais nous, nos études, ce que ça démontre, autant en milieu urbain que rural, c'est que les épiceries, c'est un excellent cas d'exemple de magasins grande surface qui utilisent pas toujours leur terrain au maximum.
Ouais.
Par définition, c'est des très grands bâtiments avec de très grands stationnements. Alors, nous, quand on regarde ça d'un point de vue de créer de l'habitat, on se dit « Ah, ben il y a un toit, possiblement, qui pourrait être utilisé pour différentes fonctions qui sert à rien. » Il y a aussi un très grand stationnement. Les besoins en mobilité changent, les gens se déplacent un peu moins avec la voiture. Fait qu'on se dit « Comment on peut regarder un site comme ça avec des nouveaux yeux, puis voir le potentiel de ça pour créer des milieux de vie qui sont plus intéressants. » Donc, ça, c'est un autre type de site qu'on a regardé. Puis, l'idée pour nous, c'est de, encore une fois, d'étudier ces types de sites-là avec l'idée que les aménagements qu'on réfléchit ici, on puisse les recréer ailleurs. Dans d'autres municipalités qui ont besoin de loger des gens, ben on peut regarder ce type de site-là de la même manière.
Absolument. Puis je pense que c'est une expo qui est vraiment, non seulement des propositions vraiment pertinentes, créatives, mais aussi c'est vraiment esthétique. Et je me demande, est-ce que tu as été surpris de certaines réactions du public? Là, parce que tu es vraiment à l'écoute, en fait, du public là-dedans. Tu proposes, mais tu prends aussi du feedback. Qu'est-ce qui t'a marqué, en fait, dans ces interactions-là?
Ben, je dois dire que ce que je vois, premièrement, c'est que les commentaires sont très bons. Fait que ça, je trouve ça assez emballant. Les gens semblent apprécier l'audace des propositions, ce qui est inattendu. Nous, on peut avoir des a priori sur le fait que les gens sont peut-être un peu plus conservateurs, donc de la manière qu'on réfléchit l'aménagement de la ville. Mais au contraire, les gens, des fois, auraient voulu en voir même plus, t'sais, qu'on a des idées encore plus audacieuses. Puis ça, c'est vraiment une belle découverte parce que nous, à la base, c'est un grand phénomène au niveau de la confrontation, des fois, entre les résidents puis les projets d'aménagement urbain proposé. Tu sais, historiquement, il y a toujours eu, on peut penser au phénomène du qu'on appelle le NIMBY, Not in My Backyard, qui est un acronyme utilisé pour décrire l'opposition systématique des gens pour plus de densité dans les villes. Mais là, nous, à quelque part, il semble qu'on réussit un peu notre mission, parce que notre mission, à la base, c'est de prouver que créer de la densité dans les villes, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Oui. Puis ça peut amener des bonnes choses, ça peut amener de la vitalité, ça peut amener des services, une synergie communautaire, etc. Puis ça peut être bien pour les gens. Puis de ce qu'on a en ce moment comme feedback, ben moi, ça me dit que, à quelque part, le challenge qu'on s'est donné au départ de ce projet-là, ben c'est accueilli par les gens.
Ouais, vraiment.
Puis ça confirme que on n'a pas été trop audacieux. Au contraire, on a une audace qui que les gens apprécient.
Ouais, absolument. C'est ce que j'ai entendu aussi, des commentaires très positifs. Et puis, je pense aussi, ça a peut-être rapport avec le fait que, en fait, certaines, il y a vraiment une grande concentration de gens créatifs. Et je pense que d'apporter de la créativité en solution à des problèmes qu'on vit, c'est vraiment apprécié. On va parler aussi à des résidents là qui ont leur chose à dire à propos de tes projets. Est-ce que t'as choisi Sutton parce que justement il y avait cette ouverture là ou la taille du village ou comment est-ce que t'as choisi en fait celui-là?
C'est une excellente question. On a choisi Sutton pour plusieurs raisons. Puis il y avait plusieurs atouts pour ce village-ci pour devenir le territoire d'études. Premièrement, c'est un périmètre urbain qui est assez compact. Donc, pour nous, ça voulait dire qu'on n'allait pas trop s'éparpiller, qu'on allait pouvoir vraiment bien cerner cet environnement-là. Deuxièmement, les sites qu'on a identifiés étaient très proches les uns des autres, ce qui nous a dit que ça serait possible de créer une synergie entre ces sites-là, de faire en sorte que la mobilité des piétons puisse être en continuité dans le village, qui est déjà très, très présent à Sutton avec tout le réseau de piétons. Donc, nous, ça a été vraiment une opportunité de réfléchir à comment consolider les sentiers dans la ville et rendre Sutton encore plus agréable pour y marcher. Donc, ça, c'était vraiment une belle opportunité. Il y a aussi, tu sais, tu l'as mentionné, des gens créatifs à Sutton, etc. Tu sais, on a senti que c'était une communauté qui avait des grandes attentes pour le développement de leur ville, puis qui avait cette attente envers une approche qui est créative comme celle-là, et puis qui l'accueillerait, qui nous donnerait un feedback à la hauteur du travail qu'on a mis. Est-ce que ces projets-là vont se réaliser? Ben, rendu là, c'est les citoyens qui devront être dicter le futur de ces projets-là. Nous, on pense que plusieurs de ces projets-là pourraient réellement contribuer à rendre Sutton un endroit encore plus agréable, encore plus vivant. Mais on n'est pas là pour imposer cette vision-là. On est là vraiment pour aller chercher le feedback des gens.
Et puis, pour les gens qui ont manqué l'expo, où est-ce qu'ils peuvent consulter, en fait, les projets? Il y aura une archive?
Oui, absolument. Ben, il faut aller s'inscrire sur notre site web. On a une infolettre. Donc, le site web, c'est le www.l'ensemble.ca. Sur ce site-là, c'est possible d'aller justement déposer son adresse courriel. Nous, on va faire des envois prochainement qui vont parler de comment, ça va être quoi les suites pour ce projet-là, puis donner plus d'informations, la documentation sur ce qui a été exposé ici dans le cadre des activités de concertation citoyenne. Puis en ce moment, on regarde comment on pourrait amener l'exposition ailleurs, dans le fond, dans un autre endroit, que ce soit dans Bromissiqua ou ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui nous disent que cette exposition-là, ce matériel-là doit être vu, cette démarche-là doit être diffusée. On a hâte de trouver une nouvelle maison pour cette exposition-là. Absolument. Parlant de maison, l'École d'art a réellement été un lieu exceptionnel pour pouvoir, pour la première fois, montrer ce qu'on a fait depuis 2 ans. C'est vraiment un lieu ultra inspirant, une équipe exceptionnelle qui nous a vraiment appuyé du début jusqu'à la fin pour faire en sorte qu'on donne une portée à ce projet-là, une portée à notre message. Puis on est tellement, tellement reconnaissant d'avoir pu travailler avec l'École d'art, et ce n'est que le début d'une collaboration, j'espère.
On espère, et puis merci beaucoup d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Others fall through.
Donc, comment répondre aux besoins en logement tout en préservant l'authenticité d'un village? Les architectes de l'ensemble ont demandé cette question-là au public. Et on va écouter un clip de la concertation citoyenne où, en fait, ils ont rassemblé plein de résidents du village de Sutton de tout âge pour avoir leur perspective.
Il y avait une question, est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui pourraient faire le même processus? Oui, certainement. Mais ce qu'on se disait, c'est qu'on souhaite que Sutton soit le chef de file au Québec pour les municipalités, au Canada, et il y a peut-être un petit peu de chemin à travers le monde. Soyons fiers et un leader. Et ça s'exprime à travers quelques éléments. Le premier, c'était l'obstacle, en fait, le frein à la réalisation. Quand il y a déjà des expériences, quand on investit dans du développement urbain, ben, ça génère de la valeur, ça crée davantage de spéculation. Donc, c'est pas au service de ce qu'on vise de l'abordabilité. Et on a entendu une bonne idée ici, c'est qu'à chaque fois qu'on veut investir un dollar dans le logement abordable ou l'abordabilité, on investit aussi un dollar dans l'urbanité. Le lieu de vie. Les deux doivent se faire en même temps, sinon on va créer un écart très important. Donc pour arriver à notre destination. Et la deuxième chose, et après je passe le micro, c'est le cycle de vie. On a souvent tendance de regarder une réalité. On parlait d'une jeune famille, quelqu'un qui arrive sur le marché, quelqu'un qui peut-être a des enfants monoparentales, une personne âgée. En fait, ce qu'on invite à regarder, c'est moi, ça va être quoi mon besoin futur? Si je vends ma propriété, je génère un actif, je vends mon actif, mais pour peut-être financer ma prochaine étape de vie, peut-être accéder à une maison de retraite. Donc, c'est de regarder le développement aussi, une vision 360 du besoin de l'usager. Sinon, ça va être plus difficile d'y arriver. Donc, regarder c'est quoi les prochaines étapes. Donc, le cycle de vie des usagers. Il peut y en avoir plusieurs d'ailleurs. Voilà. Alors, je donne la POC à Liam pour un autre thème qui nous anime.
C'est vraiment un bel exercice d'intelligence collective. Puis bravo à tout le monde d'être là. On parlait de cycle de vie de l'individu. Puis en tant qu'individu, on pense beaucoup à qu'est-ce qu'on met dans notre corps, à la durabilité de notre santé. Puis des fois, on a tendance à laisser de côté un petit peu ce qu'on va mettre dans la construction, dans le cycle de vie de notre bâtiment. Puis, au profit de l'abordabilité, on se retrouve des fois avec des architectures et des bâtiments qui sont moins durables. Fait que c'était mentionné de prendre en compte vraiment les matériaux, les techniques, la provenance, l'approvisionnement de qu'est-ce qui va construire les bâtiments dans lesquels on va créer ce projet-là. Ensuite de ça, il y avait la question des îlots de chaleur, de s'assurer que le projet était intégré pour éviter des grands espaces de stationnement qui créent des îlots de chaleur. Fait que de vraiment réfléchir l'intégration naturelle du lieu. Puis, dernièrement, il y avait quelque chose d'intéressant qui émergeait par rapport à notre génération, les jeunes, les moins de 30 ans, en fait, on réquisitionne l'abordabilité parce qu'il y a un enjeu de créer de l'abondance. Mais je me dis pas à n'importe quel prix, on pourrait trouver un contrepartie, créer un levier de dire oui, on offre une table pour l'abordabilité, mais qu'en échange, il y a une implication, quelque chose qui nourrit le cœur villageois. Fait que si on trouve un angle où est-ce qu'on peut créer un levier par l'abordabilité pour créer encore plus d'entraide, créer plus d'implication, pour que ce ne soit pas juste des têtes blanches au conseil de ville, mais qu'il y ait plus de jeunes familles impliquées, qu'il y ait plus de bénévolat, puis qu'on crée un cœur encore plus solide à Sutton.
L'autre vision d'avenir qui nous semble assez évidente, c'est la question de la mobilité. Donc, déjà, le projet, c'est intéressant parce qu'il préserve ou il crée des sentiers pour mieux circuler dans la municipalité, mais aussi avec l'idée de 1,2 stationnement par nouvelle porte. Donc, il faut aussi des alternatives à l'auto solo. Donc, il faut faire la promotion de nouveaux modèles de se déplacer pour des plus longues distances que juste là, la marche. Là. Donc, on pense à l'autopartage, aussi au transport collectif qui serait des taxis collectifs qui seraient reliés à un circuit d'autobus dans la région. Donc, ça, c'est très important de faire la promotion des alternatives à l'auto-solo, même en région rurale.
So I'll try to give you a very brief summary of what we've just heard. Sutton is going to be the world leader in sustainable development. It's important to distribute the wealth and all the benefits that are going to come from it. So it won't become an object of speculation. If we want to improve the conditions in Sutton, it's for the people of Sutton and of all generations, for young families, for seasonal workers, for elderly people, it's for the locals, not for people to come in and buy real estate for speculation. The next thing is sustainable housing, not just affordable housing, but sustainable with sustainable materials and an economy of abundance and exchange. And thirdly, thinking about mobility, we need to rethink the way we move in our spaces, in our public spaces, take the time to sit down and meet people, not be dependent on cars alone, think about car sharing and other options. So this is the vision for Sutton.
Alors, la première, on a exploré trois questions. We explored three questions. The first one was about zonage solidaire. L'idée du zonage solidaire, c'est que la municipalité peut permettre plus de densité à des entreprises à but non lucratif qui vont développer du logement, acheter du logement. Donc, on pourrait, par exemple, augmenter de 3 étages à 4 étages pour rendre les projets plus efficaces, plus abordables. So the zonage solidaire, solidarity-based zoning, yeah. So experiment with adding more density. We allow nonprofits and co-ops to build more on the same lot. For example, going from 3 floors to 4 floors. So only nonprofits and co-ops would be allowed to do that. Il faut aussi soutenir nos municipalités pour qu'ils puissent le faire. Des fois, les petites municipalités n'ont pas nécessairement toutes les capacités à l'interne pour activer ce genre de zonage-là. S'il y a des gens dans la salle qui ont ces expertises-là, ben, de venir au-devant et de soutenir les municipalités. So we need to support our municipality when it comes to this kind of zoning. On a aussi parlé de multi-usage. Oui, on a parlé beaucoup de résidentiel aussi, mais il faut parler de quel genre d'artère commerciale on veut avoir. Des commerces de proximité en santé qui ne sont pas ouverts juste 3-4 jours par semaine. Des espaces verts qui ne sont pas privatisés. Et aussi soutenir notre relève agricole. Il y a beaucoup d'agriculteurs dans le coin qui ont de la misère à vivre. So, multi-use spaces. Talking about farmland, talking about commercial spaces, community spaces. So, it's not only about residential spaces, but also all these other uses when it comes to zoning. We can... convert spaces that were initially, let's say, commercial to housing and vice versa. Et on peut faire de la conversion, de la requalification de certains espaces pour favoriser le logement. On a parlé aussi de préserver le look, puis aussi le lien avec la nature à Sutton, c'est évidemment très important pour tout le monde. Donc, faut développer, faut densifier, mais en ayant ça en tête. So we need to preserve the look and the link to nature in Sutton, which is really important to everyone. Building new affordable housing. En parlant de densité, peut-être pas trop aller trop haut, puis trop proche les uns des autres. Donc, il faut tester des options qui nous transforment pas en banlieue ou en grosse ville. So maybe experimenting with densification, not necessarily adding too many floors or being too close to each other. So testing little steps. Prioritizing permanent residents. So on doit commencer par les gens qui habitent déjà ici versus peut-être des gens qui viendraient de l'extérieur. Pas qu'on les aime pas, mais c'est juste qu'il faut garder notre monde. Je prends beaucoup de temps. Hein. On a exploré d'autres questions. Donc, cultiver la diversité, je l'ai déjà dit, multi-usage, soutenir les employeurs qui ont de la misère à attirer et retenir la main-d'œuvre. Donc, avoir parfois des logements qui sont saisonniers, on le voit dans le projet l'ancienne gare. Cultiver l'intergénérationnel, donc avoir des gens de tous les âges, tous les backgrounds, une mixité, c'est très important dans nos milieux de vie. Donc, cultivating diversity, helping employers to bring housing for their employees, mixing generations, having a mixity in our communities. There's a need for like a paradigm shift, de réfléchir la propriété différemment. Je pense qu'en un temps de multiples crises climatiques, coût de la vie, logement, ben je pense qu'il faut apprendre ou réapprendre à mieux partager, à cohabiter ensemble. Selon nous, c'est comme un incontournable. Puis le logement peut être une opportunité aussi justement pour partager de plus en plus. So that we're facing multiple crises. And I think it's an opportunity to relearn or learn skills to share more spaces and tools, etc. So we need to think about that while developing our village. And there was a third question about the future. Obviously, building is super expensive, so we have to work on innovations regarding building constructions. And there's a wave right now of modular housing, prefab housing. It's not necessarily bringing less expensive prices right now, but we're going in the right direction, so we need to support these innovations. And also a clear focus on, for example, sharing cars between neighbors, supporting sustainable mobility. J'ai parlé qu'en anglais, hein, c'est ça. Est-ce que vous voulez? Oui, OK. Donc, on a une dernière question sur l'avenir. Les coûts de construction explosent en ce moment pour construire, mais il faut vraiment stimuler l'innovation dans ce secteur-là. Il y a notamment un mouvement autour du modulaire, du préfabriqué. Ça ne donne pas encore de grandes économies, mais c'est une industrie qui est en train de s'accélérer et de s'améliorer. Donc, d'ici 5 à 10 ans, ça va procurer des économies. Il faut soutenir cette industrie-là, ces innovations-là. Puis finalement, un point encore pour parler de partage. Donc, pourquoi on ne pourrait pas partager des véhicules entre voisins? Il y a des applications qui existent pour ça. Puis de favoriser la mobilité durable de plus en plus, comme d'autres l'ont déjà mentionné.
Donc, on va prendre une petite pause sur le thème de l'architecture pour découvrir qu'est-ce qu'on dit par les éphémérides. Et on revient en partie 2 pour découvrir le film Le Dernier Flip. Merci d'être à l'écoute de Portrait Vivant, une émission de l'École d'art de Sutton.
Qu'est-ce qu'on dit qu'on se trace un chemin? La routine prenne le champ et qu'on ne calcule plus le temps. Allez, on roule tous les deux juste assez pour aller mieux. Et on chante ensemble cette chanson au rythme de nos cœurs. Des sommets, on va long en ensemble, nous nous évaderons. Au rythme de nos cœurs, des sommets en valant. Ensemble, nous nous évaderons. Qu'on parte demain pour nouer avec nos instincts d'une chanson, d'une mélodie, vivre l'histoire de nos vies. Et on chante ensemble cette chanson. Au rythme de nos cœurs, des sommets en vallant. Ensemble, nous nous évaderons. Je marche à toi, voyageur. Et on chante ensemble cette chanson. Au rythme de nos cœurs, des sommets en valant. Ensemble, nous nous évaderons. Au rythme de nos cœurs, des sommets en valant. Ensemble, nous nous évaderons. Au rythme de nos cœurs, des sommets.
Donc, re-bienvenue à Portrait vivant, une émission de l'École d'art de Sutton et de CIDA 89.fm. Dans notre émission d'aujourd'hui sur le thème des printemps de l'architecture, on a découvert le travail incroyable de l'ensemble, une OBNL qui se penche sur la question du logement abordable, et on a aussi découvert les voix citoyennes lors de la concertation sur le logement qui a été donnée à l'École d'art de Sutton. Maintenant, on va parler du film documentaire Le Dernier Flip, des marchandises d'immobilier, qui nous parle de solutions vraiment intéressantes. Donc, c'est un documentaire qui suit la journaliste Diane Bérard et l'entrepreneur social Samuel Gervais. J'ai amené Nour, qui a 9 ans, à voir le film. Il l'a vraiment apprécié. Et on a rencontré Samuel dans le jardin de l'école d'art ensemble pour faire une entrevue au sujet de son organisation Territoire solidaire. Donc, une belle découverte pour Nour. Et puis, ça me rappelle l'importance, en fait, d'inclure les enfants même dans des conversations qui semblent être plus adultes. L'école d'art a toujours ses portes ouvertes pour la jeunesse, et puis j'ai remarqué vraiment un grand intérêt des jeunes envers ce sujet.
Je suis Samuel Gervais, je suis cofondateur puis co-directeur général de Territoire solidaire, qui est un organisme à but non lucratif qui est basé à Sutton, mais qui a une mission qui est provinciale. La mission de Territoire solidaire, c'est vraiment de favoriser les projets en immobilier solidaire, donc de rendre le monde de l'immobilier beaucoup plus solidaire, donc de faciliter l'accès et l'abordabilité. Puis en parallèle donc du démarrage de Territoire solidaire, j'ai co-créé avec 2 amis le documentaire Le Dernier Flip, qui est disponible là depuis 1 an sur la plateforme de Radio-Canada Tout.tv gratuitement. Donc vous pouvez aller voir ça. Ça parle de différentes solutions à la crise du logement au Québec.
Ouais, c'était vraiment un documentaire intéressant. En fait, je l'ai recommandé à plusieurs personnes. Et je voulais savoir, comment est-ce que tu as participé de différentes manières à la conversation des printemps de l'architecture cette année?
Ben avec l'organisme L'Ensemble, on est partenaire depuis plusieurs années. Quand ils ont commencé à réfléchir à un projet justement de portrait de densification solidaire, ben ils ont considéré différentes régions où faire ce projet-là de recherche. Ils ont reçu un financement du ministère de l'Économie et de l'Innovation, puis ils sont intéressés à la région de Bromsiskois.
Ils ont commencé par interroger différentes municipalités, puis ils ont fini par choisir la municipalité de Sutton pour différentes raisons. Mais donc, toute l'étude de différents sites a été faite à Sutton. Le lien entre Territoire solidaire et l'ensemble, c'est que nous, avec notre solution de fiducie foncière communautaire, une solution qui est d'ailleurs présentée dans le documentaire, ben on pourrait évaluer certains des sites qui ont été présentés ici. Si on voit qu'il y a une possibilité de rendre ce projet-là de logement abordable, on pourrait s'engager dans une démarche pour faire l'acquisition du terrain puis construire des nouveaux logements. C'est pas tous les sites qui vont se prêter à de l'abordabilité, mais on va pouvoir examiner ça une fois le projet terminé, puis on pourrait reproduire ça aussi dans d'autres municipalités avec l'ensemble dans le futur.
Puis on a avec nous Nour, qui a 9 ans, qui participe au projet Radio. Est-ce que tu avais des questions à poser à Samuel, Nour?
Bon, pourquoi tu as choisi cette région pour faire ça?
Ben, premièrement, moi, j'ai déménagé dans la région il y a 5 ans, donc c'est devenu ma maison, ma région. Donc, pour ce qui est de Territoire solidaire, je peux pas parler pour l'autre organisme de l'ensemble, mais pour Territoire solidaire, nous, nos bureaux, comme je l'ai dit, sont à Sutton. On a beaucoup de projets qui nous permettent d'innover dans le monde de l'immobilier, puis on a décidé de commencer par chez nous. Donc, on commence par le territoire de Brome-Missisquoi. Puis, la beauté de la chose, c'est que tout ce qu'on expérimente, qu'on teste à Brome-Missisquoi, ben, va pouvoir être pratiqué ailleurs à travers le Québec. Puis déjà, la preuve, c'est qu'on est en train de créer une fiducie foncière communautaire dans le territoire voisin, c'est-à-dire même Fremagog, mais aussi une fiducie à la ville de Laval. Donc, on est en train de se promener un petit peu partout à travers le Québec, puis on va pouvoir partager plein d'outils, plein de ressources entre territoires québécois pour accélérer le mouvement là, du logement abordable, puis aussi se doter de différents types d'espaces, des espaces pour les commerces de proximité, les organismes communautaires, puis même de soutenir la relève agricole, nos fermiers qui ont de la difficulté à bien vivre.
Okay. Qu'est-ce qui t'a rendu à cette idée de faire ce projet? C'est vraiment unique, comme il n'y a pas beaucoup de projets comme ça.
Moi, personnellement, dans ma vie professionnelle, j'ai toujours cherché à trouver à répondre à un certain défi qu'on vit dans la société ou qui est lié à l'environnement, à la protection de la nature. Donc, quand je suis arrivé dans la région, quand je parlais avec les gens, il y avait toujours la question de la crise du logement qui remontait dans les conversations. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire là. Tu dis que c'est une idée nouvelle, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens au Québec qui travaillent sur la question du logement. Il y a beaucoup de solutions qui ont été développées au Québec. Mais la raison pourquoi on ne les connaît pas, c'est que peut-être que nos médias vont pas vers les histoires positives, constructives, mais souvent vont véhiculer les histoires, ce qui va pas bien dans notre communauté, dans notre société. Donc peut-être qu'on peut indiquer à nos journalistes dans notre société, parler des belles histoires, comme ça on va peut-être être de plus en plus motivés puis contribuer à des projets comme il se passe ici à Brome-Missisquoi.
Merci d'avoir été à l'écoute de notre émission de Portrait vivant sur le thème des printemps de l'architecture. On a rencontré des membres de la communauté, des enfants, des architectes, l'entrepreneur social Samuel Gervais, et on a pris connaissance du film Le Dernier Flip, qui est disponible sur ICI2TV gratuitement. Maintenant, on va découvrir la musique d'artistes locaux, Stillness de Patrick Simard, ainsi que Claire Turnbull et Alain Auger.
Ce projet est rendu possible par le gouvernement du Canada ainsi que le Fonds canadien de la radio communautaire.